Merci à vous tous. C'est maintenant l'heure d'aborder notre quatrième débat qui est l'éducation. Voici la première question. Bientôt, la Rive-Sud pourra se réjouir d'avoir plusieurs nouvelles écoles sur son territoire, mais l'état des écoles existantes laisse grandement désirer. Les plus récentes données du ministère de l'Éducation montrent que seulement 2 écoles du territoire sur les 25 étudiées sont dans un état satisfaisant. Toutes les autres affichent un état avancé ou très avancé de dégradation. Quelles actions doivent être prises pour corriger la situation le plus rapidement possible? La question s'adresse dans un premier temps à M. Dumas. Vous avez 30 secondes.
Oui, très concrètement, c'est en ajoutant de l'argent et c'est 575 millions qu'on promet au Parti québécois à ajouter au PQI spécifiquement. Et tout simplement, c'est une lacune qu'on est capable de voir. Les écoles sont en dernier dans les priorités au PQI. Ben, c'est de les retourner puis de les mettre en priorité. Donc, c'est ce qu'on propose. Puis de réaliser les travaux en dedans de 4 ans plutôt que 10 ans, c'est ce qui est actuellement la norme.
Autour de M. Watsou.
Oui, on veut, Québec solidaire, établir un vaste chantier de rénovation, d'agrandissement, de mise à jour, des investissements massifs dans nos écoles, parce que l'avenir de ces enfants-là est primordial, mais aussi un climat de travail sain pour les enseignants et enseignantes, c'est important aussi.
Autour maintenant de M. Lyonnais.
C'est sûr que le PQI, il faut qu'il soit avancé. Là. On sait que la climatisation... Les changeurs d'air qui ne sont pas là dans nos écoles encore, on le sait, là, on rouvre des fenêtres pour aérer. Faut mettre à jour nos écoles, on a beaucoup d'argent à mettre dedans. Le montant n'est pas chiffré parce qu'on veut le faire sur le terrain, on veut le voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut absolument mettre à jour nos écoles et aussi les moderniser aussi. Là.
Et on termine avec M. Martel, vous avez 30 secondes.
C'est un travail gigantesque. Juste dans les 4 dernières années, notre gouvernement a investi 337 millions pour les écoles de la région Centre du Québec. Si on fait un comparatif, là, c'est 10 fois plus que les 4 dernières années avant notre gouvernement, mais il faut en faire encore plus parce que c'est un fait qu'il y a des écoles qui ont besoin de rénovation actuellement.
On passe maintenant au débat de 5 minutes qu'on débute avec cette question de Marie-Ève.
Oui, la parole sera à M. Lyonnais. La vétusté des écoles est le résultat de décennies de laxisme. Est-il trop tard pour corriger le tir compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre et de l'inflation qui a fait exploser les coûts de construction?
Non, il n'est jamais trop tard. Là. Il faut vraiment que nos étudiants aient le goût d'aller à l'école, nos jeunes aient le goût d'aller dans une école qui est respectable. Hein. On parlait de qualité de l'air, on parlait de l'eau aussi, mais on parlait aussi de développer aussi. Nous, on veut développer, on l'a fait chez nous, mais on veut le faire à bien des écoles qui voudront embarquer. Un projet pilote, un exemple, des serres. On a donné le goût à des gens de faire avec des profs, d'aller sur le terrain et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire et développer nos écoles. Non, il n'est pas trop tard. Oui, il y a un coût, mais on n'a pas le choix. Sinon, là, nos écoles vont tomber à terre ou ils vont s'effondrer. On a vu, malheureusement, Saint-Célestin qui est rentré dans le sol. C'était catastrophique. C'est pour ça qu'il faut leur bâtir une école neuve. Mais non, il faut vraiment. Puis il faut aussi adapter nos écoles avec nos gens chez nous. Nos personnes handicapées, on les oublie souvent. Là, on les fait faire beaucoup de voyagements. On peut-tu les ramener une fois à des plateaux de travail qui reviennent chez nous? Voir notre monde chez nous. Et ça, c'est un plus qu'on oublie souvent, nos personnes handicapées. Là, ils vont à Saint-Célestin, il y a un bon service, mais de chez nous, là, j'ai des gens là, qui font 1 heure et quelques de transport. On peut-tu leur amener des services plus proches? On peut-tu s'y adapter? Je pense que oui. Il faut le faire avec l'ensemble.
M. Watsou, vous voulez participer à la discussion?
Mais comme j'ai dit tantôt, c'est d'assurer les investissements massifs dans nos écoles pour avoir un climat sain pour que les étudiants puissent apprendre de faire... Avoir un climat sain au sein de leur système d'éducation.
M. Dumas.
La question est-il trop tard? Malheureusement, on est bien avancé, mais trop tard, je pense que c'est jamais le cas pour l'éducation. Notre boulot après, c'est de s'assurer de l'efficacité de nos programmes. Puis je pense que c'est ça qu'il faut améliorer dans ce cas-ci. C'est pas normal qu'on soit rendu à ce niveau-là. Puis il y a eu un laisser-aller. Je pense que il faut se concentrer sur la proximité. Il y a beaucoup de projets pilotes en ce moment pour ramener un peu plus d'écoles à la maison. Ben est-ce que ça peut faire partie de la situation si jamais on est en situation d'urgence dans certaines écoles? Je pense que ça peut faire partie de la solution. Encore une fois, je pense qu'il faut pas penser à l'extérieur de la boîte parce que les normes au niveau des nouvelles écoles sont toujours de plus en élevées au niveau des espaces, des gymnases doubles et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il va falloir, encore une fois, faire preuve d'innovation également dans le milieu de l'éducation.
M. Martel?
Est-ce qu'il est trop tard? Non. Il faut jamais abandonner ça. Il faut donner ce qu'il y a de mieux à nos enfants, à nos élèves. Moi, je me rappelle d'être allé il y a une couple d'années à Stone Junction. Puis vous savez, l'école, là, ça fait partie un peu de la communauté. Puis il y a une espèce de fierté communautaire à l'égard de notre école. L'école d'Aston Junction avait besoin de beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de travaux qui se sont faits. Les parents se sont impliqués. On a mis des sous avec le centre de service. Puis aujourd'hui, les gens sont très fiers de leur école. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut avoir des belles écoles. Puis c'est pour ça que les nouvelles constructions, je suis tellement fier de l'école Marquis qu'on a bâtie à Saint-Célestin. J'invite toute la population. Je pense que le 22, il y a une porte ouverte. C'est probablement une des plus belles écoles au Québec. On est en train d'en faire une à Saint-Sylvaire aussi, où ce que ça va être un petit bijou, 4 classes, puis un centre communautaire pour la municipalité. Donc, c'est important. Puis pourquoi que je mets autant d'emphase là-dessus? C'est vraiment un héritage qu'on laisse dans les communautés et les enfants méritent ça.
Je pense que c'est un héritage quand même du ministère de l'Éducation et des centres des services scolaires là-dessus. Les besoins des étudiants, en fait, là, on le voit venir, c'est avec les besoins démographiques. Puis là-dessus, je crois que quiconque de nous quatre aurait été au pouvoir en ce moment aurait pu dire exactement la même chose. Je pense qu'en fait, pour ramener ça positif quand même, on peut tous être fiers de ce qui est réalisé à Saint-Célestin et des prochaines écoles qui s'en viennent à Nicolet, entre autres, également.
M. Watsou, c'est un défi pour un éventuel gouvernement de Québec solidaire de faire face à cette inflation-là dans des projets de construction comme celui des écoles?
Ben, c'est pas un défi si on y va avec une redistribution équitable des richesses du patrimoine économique du Québec. C'est de redistribuer puis mettre l'argent là où c'est que ça compte, puis les écoles, ça compte. On doit investir massivement pour assurer avoir des belles institutions scolaires pour les enfants, pour les jeunes adolescents et ceux qui vont dans au cégep et aux universités.
Monsieur Lyonnais?
Ben, j'ai aimé quand tu as parlé d'Aston Junction. Le milieu s'est pris en main. Souvent, pour mettre une école à jour, le milieu doit se prendre en main, faire un bout de chemin. On l'a fait, celui-là qui ne sert avec un plus. La commission scolaire, le centre de services a fait son bout de chemin. L'entreprise privée est prête à faire un bout de chemin aussi pour aider. Je parle des entreprises qui sont dans le milieu, à mettre de l'argent, à donner un coup de main bénévolement et aider. Ça, on peut faire développer nos écoles. Je pense qu'il faut se servir de tout le monde autour. Pas juste des payeurs de taxes, mais les gens qui sont là, qui sont prêts à faire du chemin avec des bénévoles pour développer nos milieux Merci. Éducatifs.
Merci à vous tous. Allons-y maintenant avec le deuxième débat, la deuxième question plutôt de ce quatrième thème. Selon les plus récentes données du ministère de l'Éducation, près de 18 % des élèves du centre de service scolaire de la Riveraine sortent du système scolaire sans diplôme, ce qui est nettement supérieur à la moyenne québécoise. Chez les garçons, le décrochage est de 23,2 %, ce qui fait de la Riveraine le 11e pire centre de service scolaire francophone à ce chapitre. La Riveraine nous confirme que les échecs ont été plus nombreux lors de la dernière année scolaire. Quelles solutions proposez-vous pour favoriser la réussite académique des élèves? La question s'adresse dans un premier temps à M. Watsou. Vous avez 60 secondes.
Québec solidaire veut une accessibilité de qualité puis une justice pour tous nos jeunes. On veut éliminer les trois paliers, qui soient le public sélectif et le privé, faire du public l'accessibilité au système scolaire public, un droit universel pour que tout le monde ait la même chance de réussite au sein de nos organisations académiques.
Monsieur Lyonnais, votre tour.
Oui. Nous, ce qu'on voudrait préconiser, c'est surtout le travail éducation. On sait que nos jeunes, et on commence à travailler. Tu sais, dans nos milieux, on a d'ouvrage. Les jeunes décrochent, ils s'en vont travailler. On peut tout faire des jeunes qui étudient en même temps, qui travaillent, qui font deux semaines. On le voit dans l'école familiale rurale qui existe dans le bois, je m'en avais plus de la municipalité. Nos jeunes qui décrochaient en agriculture sont raccrochés par des projets. Ils peuvent aller chercher un diplôme. Ils travaillent 2 semaines, ils vont à l'école 2 semaines. Est-ce qu'on peut le faire la même chose avec nos métiers? Je crois que oui, on a besoin de soudeurs, on a besoin de plombiers, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de paquets de métiers. Revenons à ce qu'on avait avant, des DEP. On n'a plus de DEP, on ne raccroche pas nos jeunes à l'école. Il faut trouver des projets pour raccrocher nos jeunes et les garder à l'école. C'est avec cette façon-là qu'on peut faire garder nos jeunes chez nous, mais c'est de leur trouver un intérêt à aller à l'école. Si on n'a pas d'intérêt, on décroche, puis on va travailler, puis la vie continue, puis là, ça va vite. Je me suis, moi, vous donner un exemple. Je n'aimais pas l'école. J'étais allé en conservation de la faune. Ça m'en est le goût. J'ai aimé l'école. J'ai fait un 65. J'ai fini. J'ai été plus loin. Mais si j'aurais pas eu d'intérêt, mais on décroche. Mais il faut donner un intérêt à nos gens.
Merci. Autour maintenant de M. Martel.
C'est préoccupant, les chiffres que vous mentionnez là. Puis on peut pas être fier de ça. Mais en même temps, le malaise est quand même profond. Hein? On a eu des grandes réformes en éducation. Ça date de plusieurs années. Là, on voit, des fois, il y a des améliorations, mais je reviens, par exemple, aux professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui quittent la profession. Moi, je pense qu'on est dû, collectivement au Québec, pour faire une très, très grande réflexion sur l'avenir de l'éducation. Il y a trop de petits problèmes comme ça qui peuvent être vraiment désastreux à long terme. Là, il faut s'occuper de nos jeunes.
Et on termine avec M. Dumas. Vous avez 60 secondes.
L'éducation, c'est un autre milieu, un autre secteur... devant lequel on peut dire le défi est grand, est-ce qu'on promet qu'on règle tout dans un mandat? Absolument pas. Puis je pense que c'est important de le prendre bouchée par bouchée. Dans le cas du Parti québécois, on croit infiniment à l'accès gratuit à la scolarité. Puis c'est pas quelque chose qu'on promet dans un premier mandat ni dans un deuxième, c'est d'y aller pas à pas. Et la première étape dans notre cas, c'est d'avoir des CPE 100% publics, pardon. Donc de ramener, je ne sais pas si vous savez combien de classes de CPE on peut faire avec une seule classe de maternelle 4 ans, mais je pense que là-dessus, il y aurait vraiment lieu de se poser des questions. Une classe de maternelle 4 ans, c'est 800 000, alors que 10 groupes de CPE, on peut faire avec 1,2 million. Donc, déjà, de les prendre très tôt, d'engager l'État davantage dès les CPE jusqu'à l'université, c'est l'approche que je préconise.
On passe maintenant à la période de débat de 5 minutes. Voici donc la question de Marie-Ève Veillette du Courrier Sud.
Alors que les écoles manquent de personnel pour soutenir et accompagner les élèves, la pénurie de main-d'œuvre rend le marché du travail de plus en plus attrayant pour les jeunes. Que doit-on faire pour limiter le décrochage scolaire? La parole est à M. Martel.
Non, mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment un problème. Puis il y a d'autres choses qui nous guettent. Là. Tantôt, on parlait... Puis je sais pas si on va revenir là par rapport à la filière de la batterie, puis tous les emplois qui sont créés, ça va créer une pression très, très grande pour les jeunes de 16 ans, 17 ans, qui n'ont pas fini leur secondaire 5, par exemple. Il y a des entreprises qui vont vouloir les embaucher. Moi, je pense qu'il va falloir être vraiment vigilant par rapport à ça. Puis moi, j'aime l'idée de Mario de dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus actif pour les métiers techniques. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, là, c'est pas tout le monde qui veut faire des ingénieurs, des avocats ou ben non, des comptables. Il y a des gens qui veulent se salir les mains, qui veulent avoir des métiers traditionnels. Puis je pense qu'on va en avoir de besoin, puis on va devoir en former beaucoup plus.
Oui, monsieur Lyonnais.
Puis même là, présentement, la pénurie de profs, je sais, on le vit à nos écoles, toutes les écoles le vivent. Tu sais, présentement, c'est des profs qui sont là. Ils remplacent les profs et des gens qui ont un secondaire 5, puis je le ferais, si, leur offrir au moins un service en disant, veux-tu aller faire un bout de cégep, puis veux-tu venir faire l'enseignement, étudier, on pourrait le faire, malheureusement, là, on manque, là, notre directeur incendie est allé faire du remplacement, on a toutes sortes de personnes qui vont dans nos écoles, le concierge fait de la suppléance, la péritaire en sport fait de la suppléance, faut donner de la formation, faut aider ces gens-là à se former, puis à rester à accrocher à l'école, c'est demain qu'on va réussir à les garder. Moi, je pense à ma personne chez nous, quand on a l'air 5, bien, on peut dire, regarde, on va donner une chance à faire du cégep l'été, puis aller chercher une étude collégiale, une attestation d'études collégiales, puis après, le cégep, chercher ton bac, puis tu vas pouvoir venir dans la boîte. Tu as déjà les pieds dans la boîte, on a besoin. Il faut se servir de ces gens-là, là, de façon-là.
Monsieur Watson.
Oui, ben nous, à Québec solidaire, là, on préconise de prendre soin de ceux qui prennent soin de nos enfants dans les écoles. C'est d'assurer une pérennité pour les enseignants. J'avais une statistique ici qui montrait que la première année, il y a eu 30 % des enseignants et enseignantes qui quittent le domaine de l'enseignement. Puis sur 5 ans, c'est 50 % de ces personnes-là. On perd beaucoup de gens. C'est le stress est là, c'est de couvrir le travail, le surtemps, d'assurer une augmentation salariale et une équité salariale équitable pour tous les enseignants et enseignantes. Avoir plus de ressources pour diminuer la charge de travail puis s'assurer que nos professeurs, nos enseignants et enseignantes sont bien payés puis sont bien, qu'on prenne soin d'eux pour qu'eux prennent soin de nos enfants.
Monsieur Dumas?
Je crois que c'est toute l'école publique qu'il faut valoriser, autant au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau des programmes scolaires. En ce moment, depuis une dizaine, même une vingtaine d'années, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes qui s'avèrent être des réussites pour garder nos jeunes et nos jeunes garçons également à l'école, avec tous les programmes parascolaires en sport, par exemple, ou en technologie. Mais tout ça amène la question de l'accessibilité. Est-ce que c'est normal pour une famille, de payer 400 $ pour une seule année pour l'inscription de son garçon dans ce programme-là? Et là, on peut imaginer une famille de 4 enfants. Là, ça commence à être un budget vraiment important. Puis au Parti québécois, on veut vraiment aider l'accès aux programmes parascolaires et intrascolaires, en fait, avec des mesures d'appui en subvention, là.
Il y a eu au cours des dernières années plusieurs campagnes de promotion de la persévérance scolaire auprès des jeunes. Est-ce qu'on doit en faire plus, M. Martin?
Bien, je voudrais juste revenir par rapport à ce que Mario disait, la pénurie de professeurs, puis c'est vraiment un problème. Puis moi, je suis très fier que dans la dernière convention collective, notre gouvernement, peut-être pour une des premières fois de l'histoire, là, a arrêté de donner toutes les mêmes augmentations à tout le monde. On a reconnu le travail des professeurs, on a augmenté le salaire, la même chose pour les éducatrices en CPE, la même chose pour les gens en informatique. Puis actuellement, pour essayer de combler ça le plus rapidement possible, on donne même des incitatifs financiers importants pour que des jeunes choisissent la profession d'enseignement. Je pense que c'est la base. Il faut qu'on ait suffisamment de professeurs pour enseigner à nos enfants. Ça part de là, là.
Il nous reste environ 30 secondes. Quelqu'un veut...
Juste intégrer que déjà, les gens qui viennent donner un coup de main, leur donner un petit coup d'aide pour dire, regarde, on fait des études, je me répète, là, mais c'est important. Déjà, ils aiment ça. Ils viennent avec un secondaire 5, ils viennent avec les jeunes, ils viennent s'occuper de nos jeunes, leur donner de l'attestation d'études collégiales, puis après, c'est... On va aller chercher des gens qui sont déjà accrochés.
Je pense qu'une mesure concrète, là, au niveau du personnel, déjà, on va chercher des étudiants dans le milieu universitaire. Ils sont en train de faire le stage. On les embauche même dans nos écoles pour enseigner. Ben, déjà, de reconnaître ce temps-là comme étant du temps de stage, ça serait déjà la moindre des choses.
Merci. Nous sommes déjà rendus au dernier thème de la soirée, l'environnement. Voici une première question. On apprenait ces derniers mois qu'une entreprise qui va s'implanter dans le parc industriel et portuaire de Bécancour a contrevenu à une loi sur la pollution dans un État américain. Chez nous, on découvrait récemment qu'on autorise les entreprises, dont une à Trois-Rivières, à polluer au-delà de ce qui leur est permis. Est-ce que vous vous engagez à ce que ces nouvelles usines respectent les normes environnementales en vigueur? On parle ici de celles qui arriveront bientôt dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. La question s'adresse dans un premier temps à M. Lyonnais. Vous avez 30 secondes.
C'est sûr qu'il faut voir s'ils vont respecter les normes environnementales qu'ils ont. Déjà, on a qui dépassent. On les accepte. Ils sont là depuis un certain temps. Mais ceux qui s'en viennent, il faut voir avec les GES. Faut voir. Déjà, je ne suis pas sur les comités de voir comment ils sont leurs normes environnementales, mais sûrement qu'ils respectent les normes environnementales.
Monsieur Martel?
Ben absolument. Je pense que toutes les lois qui sont en vigueur au Québec qui doivent être respectées par les nouvelles entreprises, notamment les lois environnementales. Et moi, je pense que c'est non négociable, cette partie-là.
Monsieur Dumas?
Ben, moi, j'irais plus loin. Les lois actuelles correspondent-elles à ce qu'on désire? Et un exemple concret, le programme de rejet industriel en ce moment n'est pas appliqué depuis 2003 au niveau des entreprises de chimie organique et non organique. Et qu'est-ce qui vient s'installer dans le parc industriel? C'est de cette catégorie-là. Donc, quelque part, depuis 2003, qu'on n'est pas encore élargi à cette sphère-là de l'industrie, ça serait important de le faire. Donc, faut pas juste s'assurer que ce soit appliqué, mais il faut améliorer nos pratiques. Merci. Également.
Merci. On termine ce tour de table avec M. Watsou.
Oui, mais c'est sûr que présentement, toute industrie polluante doit respecter les règles en place du gouvernement. Le gouvernement doit s'assurer qu'il respecte ces règles-là et les renforcer. Mais avec un gouvernement de Québec solidaire, on ira encore plus loin pour s'assurer que les normes soient encore plus élevées et assurer que ces entreprises-là font une transition écologique.
Merci. On passe maintenant à un premier débat de 5 minutes avec cette question de Marie-Ève Veillette du Courrier Sud.
Les chiffres sur l'émission des gaz à effet de serre du ministère de l'Environnement indiquent qu'en 2019, près des 2/3 des émissions provenaient des secteurs industriels et commerciaux, du transport lourd et de l'agriculture. A-t-on trop tendance à faire porter la responsabilité de la protection de l'environnement sur les individus plutôt que de resserrer les normes pour les industries? Monsieur Dumas.
Ben, en effet, je pense que c'est le très bon point. On en fait la promotion déjà, que les gens soient conscients de l'impact de l'activité humaine sur les changements climatiques. Déjà qu'il y a un consensus autour de ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, de resserrer nos normes au niveau de l'industrie, au niveau du commercial, je crois que Il faut absolument les resserrer. Est-ce qu'on fait trop peser le choix individuel versus la responsabilité de l'État? Je crois que c'est à l'État également de prendre ses parts de responsabilité. Vous savez, comme député, une fois à l'État, notre boulot, c'est d'améliorer notre vivre ensemble. Puis en environnement, c'est celui qui est le plus directement, qui impacte directement les générations futures. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de resserrer nos normes et de aussi prêcher par l'exemple. Par exemple, en n'octroyant pas des acres de terrain à une multinationale comme Google, en dérogeant de la loi de la CPTAQ comme ça a été fait dans le dernier mandat, je crois que ça, c'est inadmissible. Puis il faut préserver, entre autres, nos terres agricoles. C'est un exemple.
Monsieur Watsou?
Oui, la réponse, c'est oui. La crise climatique, elle est là, elle existe, elle est réelle, elle est à nos portes, puis elle ne s'en va pas. C'est pas, on ne doit pas déculpabiliser les grands pollueurs de notre circonscription et mettre le blâme sur le simple citoyen. C'est un devoir de chaque concitoyen, chaque chef d'entreprise, chaque secteur économique d'assurer... D'assurer qu'on adresse la crise climatique qui est ici devant nous, devant nos portes, puis c'est un devoir de concitoyen de l'adresser directement et de ne pas remettre ça à une génération future. On en parlait quand j'étais un ado et on en parle encore aujourd'hui, puis c'est vraiment de l'adresser directement, puis c'est ça ma réponse.
Monsieur Martel?
Ben, deux choses, je voudrais dire. La première, peut-être j'ai sauté par-dessus, mais on a un BAP au Québec. Puis je pense qu'il faut être fier de ça. Le BAP étudie les projets avant de donner son aval. Il fait des recommandations, puis il étudie l'acceptabilité sociale, les rejets, le financement de l'entreprise. Donc, on peut être très, très fier de cet organisme-là. Puis tous les projets qu'il va avoir à Bécancour, ils vont devoir... S'ils répondent aux critères passés par le BAP. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est il faut pas mettre tout ça sur le citoyen. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais toutes les énergies qui fonctionnent avec l'énergie fossile, notre défi, c'est de transformer ça au niveau de l'électricité. Puis le fait de développer la filière batterie dans la région, moi, je pense que c'est un avantage incroyable. Puis l'autre chose, c'est qu'on est chanceux au Québec de vivre de beaucoup d'hydroélectricité. On parle de faire encore, nous, des barrages parce que on va en avoir besoin beaucoup plus. Juste pour vous donner un exemple, là, actuellement, la capacité électrique, OK, de fournir les entreprises du parc actuel, là, si on voulait accueillir tous les projets qu'on a sur la table, il faudrait multiplier cette capacité-là peut-être par 5 ou 10 fois la puissance qu'on a. Donc,
Monsieur Lyonnais?
Je suis un peu d'accord avec mon collègue, c'est Jacques, que c'est la responsabilité des citoyens, mais des entreprises aussi. Il faut s'asseoir ensemble pour voir c'est quoi nos GES, c'est quoi il faut faire qu'on peut les réduire ensemble. On ne peut pas mettre ça juste sur le dos des entreprises, juste sur le dos des producteurs agricoles, juste sur le dos de tout le monde. Il faut être assis ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut faire les étapes, il faut les faire une à la fois, puis il faut les descendre. Bon, je suis entièrement d'accord qu'il faut faire de quoi ensemble, puis Jacques a vraiment bien dit, on travaille ensemble pour les descendre. On peut aller jusque où? On peut pas menacer nos entreprises agricoles ou nos entreprises qu'on a chez nous. Il faut voir avec eux autres qu'est-ce qu'on peut faire. C'est de même qu'on va aller chercher le meilleur de tout le monde.
J'irais plus loin. On parle du citoyen, on parle de l'entreprise, mais dans ce cas-ci, parlons de l'État, également du politique, de promouvoir un projet hydroélectrique aujourd'hui. C'est absolument impensable. Au Canada, on est la province qui consomme le plus d'électricité.
Martin, vous voulez réagir?
Ah non, mais j'ai donné l'exemple, là. On veut développer la filière batterie. Moi, ce que je vous dis, c'est que la capacité de fourniture d'électrique dans le parc pour fournir est insuffisante. Mais ça, c'est un peu partout comme ça. Quand on prend un bloc d'énergie puis qu'on vend ça à New York pour faire diminuer les GES de l'équivalent d'un million de dollars, on a la chance au Québec d'être une espèce de batterie de l'Amérique du Nord. Ouais, mais... Puis moi, je souhaite qu'on développe ça.
Je vais peut-être laisser la chance à M. Watsou de conclure.
conclure sur les batteries.
C'est pas mal.
Non, mais comme j'ai dit, c'est notre devoir à tous et chacun, puis on peut pas le répéter. Puis c'est le message qu'on martèle depuis le début à Québec solidaire, c'est qu'il y a une crise climatique, elle est là, on ne peut pas se mettre des œillères, puis on doit aller de l'avant, puis l'adresser directement.
Merci. Voici donc une autre question sur le thème de l'environnement. Des milliers de travailleurs vont décrocher un emploi dans la filière batterie au cours des prochaines années. Les travailleurs vont vouloir s'installer dans la région, mais encore faut-il pouvoir les loger. D'un côté, les municipalités souhaitent agrandir rapidement leur périmètre urbain, mais déplorent la lenteur du processus ou des processus gouvernementaux. De l'autre côté, des citoyens s'inquiètent que le développement se fasse au détriment du territoire agricole. Que proposez-vous pour concilier le développement résidentiel et protection des milieux naturels? On débute ce tour de table avec M. Martel. Vous avez donc 60 secondes à partir de maintenant.
Bien, effectivement, c'est un problème, puis on a beaucoup de municipalités en milieu rural, puis moi, je pense que par-dessus tout, il faut protéger les terres agricoles. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, je pense qu'il faut réétudier toute la cartographie des zones agricoles. C'est pas vrai que tout le territoire qui est zone verte est propice à l'agriculture. Il y a peut-être des endroits où on pourrait développer. Ça, c'est une partie. L'autre partie, je pense que les municipalités doivent se concerter pour avoir des plans. Moi, j'invite les municipalités, là. Il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont venir habiter le territoire. C'est important de faire des réflexions, chacune d'elles, pour voir de quelle façon ils peuvent développer leur municipalité en harmonie avec les lois agricoles, entre autres.
Monsieur Dumas, à votre tour.
Je crois que le mot-clé, c'est vraiment la densification. Et oui, c'est possible en milieu rural. Et c'est possible surtout d'appuyer, de le faire. Au Parti québécois, on est très clair. On ne veut plus dézoner de zones agricoles. Veut pas. On doit regarder à l'intérieur de nos zones blanches. On doit regarder à l'intérieur de nos zones habitables. Puis de voir comment on peut mieux organiser le territoire. Il y a plusieurs mesures proposées par le Parti québécois. Favoriser la maison multigénérationnelle, entre autres, ou encore de bâtir un deuxième bâtiment sur un site existant. Bien, on est rendu là. Notre planète n'est pas extensible à l'infini. Puis de concilier les deux, bien, on pense qu'en accompagnant avec un ministère, par exemple, du développement régional, on va être en mesure d'aider les municipalités à répondre à toutes les normes environnementales de transport ou même du bâtiment.
Merci. C'est maintenant au tour de M. Watsou. Vous avez 60 secondes.
Oui, ben nous, à Québec solidaire, on veut soutenir la construction de 50 000 logements sociaux éco-énergétiques. Mais en même temps, on est conscient de la réalité de Nicolette-Bécancour. C'est une zone agricole. Il y a beaucoup de dézonage à faire, mais ça doit se faire conjointement avec les agriculteurs pour avoir un dialogue entre les municipalités, les villages et le monde agricole pour s'assurer qu'on puisse faire du développement de les petites municipalités et villages et assurer la pérennité des endroits humides aussi. Mais tout ce beau monde-là doit se concerter pour assurer le développement de l'ensemble de la circonscription.
Et on termine avec M. Lyonnais.
Ça s'appelle la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Nous, on veut la réviser, on veut se rassurer ensemble, on veut se rassurer avec les municipalités, la MRC, les producteurs agricoles et le gouvernement en disant, regardez, là, on a un problème qui s'en vient, là, on peut pas développer nos zones. Là. Oui, on peut dédoubler certains terrains, mais on peut pas le faire à beaucoup de place là, sur nos territoires. Et ça, c'est même l'UPA s'oppose à ce boulot en passant, dédoubler les maisons sur un terrain. Les maisons bigénérationnelles, c'est une chose, mais faut voir ensemble, faut se rassurer avec la CPTAQ, revoir après 40 ans de travaux. Il se passe d'autres choses sur le territoire. Il faut voir de façon, quelle façon on protège notre territoire agricole, mais quelle façon on fait pour développer chez nous aussi, là, nos municipalités. Là. Et nos entreprises, nos petites entreprises, on a besoin de développer. On manque d'endroits aussi pour développer nos petites entreprises. Le parc industriel, c'est bien pour les grosses entreprises, mais les petites entreprises, on n'a pas d'endroit pour développer. C'est très difficile de développer un coin là, pour nos entreprises chez nous. Là.
Merci à vous tous. On passe à notre dernière discussion de la soirée avec cette question, Marie-Ève.
Oui. Est-ce que les règles de protection du territoire agricole sont trop rigides et nuisent au développement des municipalités? Monsieur Watsou.
Oui. Là, je ne veux pas mettre les agriculteurs à dos, mais effectivement, ils y sont. Et on voit le développement des municipalités. Ils sont limités par les terres sur la frontière des terres agricoles. Et ça l'empêche le développement de nos municipalités et nos villages. Et comme j'ai dit tantôt, il doit y avoir une concertation, il doit y avoir un dialogue entre le monde agricole, le monde municipal et le gouvernement aussi. Et les citoyens, les comités de citoyens qui veulent développer les communautés. Tu as parlé de PME, effectivement, il n'y a plus de place pour développer des petites entreprises au sein de nos communautés, nos villages.
Monsieur Lyonnais?
Je pense que on ne s'était pas parlé, Marie-Ève, là, mais je répondais à ta question avant le temps. Oui, il faut se stresser, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans nos municipalités. C'est la survie de nos municipalités. On veut développer des services, mais si on ne peut pas développer notre village, on ne peut pas développer nos entreprises, on fait quoi? On est gelé. Mais nos coûts augmentent, tout augmente. Et qu'un gouvernement s'assied, un gouvernement du Parti conservateur veut s'assied avec la CPTAQ en disant il faut faire de quoi là. Oui, on a des régions boisées qu'on pourrait peut-être mettre. On a l'article 59 présentement, on a hâte de voir si ça va lever. On a travaillé dessus le volet d'un article 59, volet 1 et 2. Mais il faut voir plus, il faut voir nos noyaux urbains. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Monsieur Dumas.
Ben, est-ce que la CPTAQ nuit? Je dirais oui et volontairement. Il faut contenir le développement en superficie. À chaque fois qu'on prend un acre de plus, un hectare de plus sur une terre agricole, on s'attaque à notre garde-manger du Québec. Tout le monde est d'accord pour l'autonomie alimentaire, mais quelque part, la terre nous rendra pas plus, à part si on met de plus en plus du chimique dedans, par exemple. Et je crois qu'on a la responsabilité commune d'accepter qu'il y a une limite physique au développement des municipalités. Il faut conserver nos terres à vocation agricole. Je suis content d'entendre des idées en foresterie, par exemple. Justement, en terre agricole, il y a des belles pratiques qui sont possibles. Et surtout, en milieu municipal, de verdir des axes, de verdir des rues. Pourquoi pas s'en servir pour compenser un milieu forestier perdu ailleurs? Pourquoi pas? Mais les terres agricoles, c'est volontaire. On doit en prendre soin. C'est notre garde-manger. Et c'est notre richesse principale au Québec.
Monsieur Martel?
Bien, effectivement, je suis d'accord avec ce que Philippe dit, puis c'est une richesse des terres agricoles. Par contre, il y a des aberrations, à mon avis, qu'il faut corriger. Je vous donne un exemple. La semaine passée ou la deux semaines, je vais à Deschaillon, puis je ne le savais pas, il y a une nouvelle fromagerie. Très bon fromage, très, très cute, puis des gens, des bons entrepreneurs. Puis là, je faisais des blagues, je disais, il va falloir que vous fassiez des poutines, là, tu sais, avec un bon fromage comme ça, il faut faire des poutines. Là, ils disent, on peut pas, Donald, parce que on peut vendre juste des produits de la ferme. Il y a des choses comme ça qu'il faut changer. Moi, je rêve du jour, là, où il y a des gens de la ville qui vont venir sur notre territoire, puis ils vont pouvoir aller acheter des poulets chez l'éleveur de poulets, acheter des tomates chez le cultivateur de tomates, etc.
Je suis content, on ouvre la porte à parler de tourisme et d'agrotourisme ici. Fait que c'est certain qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de la CPTAQ. Oui. Je suis entièrement d'accord. Au niveau de la superficie, là, je me suis bien exprimé.
Non, mais ce que tu as dit au niveau de la superficie, moi aussi, je suis d'accord. Autant que possible, il ne faut pas toucher aux terres agricoles, mais si jamais on y touche, il faut compenser ailleurs.
Monsieur Lyonnais.
Entièrement d'accord. L'UPA attend depuis longtemps pour compenser ailleurs pour prendre les entreprises. Une négociation, ça n'existe pas. Le gouvernement a tout le temps été fermé. La CPTQ a été fermée. La CPTQ, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a mis des barrières. Il faut ouvrir ces barrières-là. Il faut travailler avec la base.
Une gouvernance bien indépendante à la CPTQ, d'ailleurs. Ouais,
ils ont des lois qui sont faites par le gouvernement, non?
Parce que la gouvernance est indépendante.
Oui, on a vu un décret ici dans le parc. Mais pas si indépendante que ça. Pour agrandir des usines. Un territoire.
Mais la SPIB avait déjà un territoire délimité là, de développement.
Mais il y a eu des échanges aussi. Là. Il y a eu du travail de fait par une loi, là, par un décret. Là. Les barrières de la CPTAQ, c'est fait par le gouvernement. Là. C'est pas inventé tout seul au niveau de la CPTAQ. Là.
Après ça, la gouvernance fait avec. Là.
Mais oui.
Monsieur Watsou?
Il reste un peu de temps.
On a besoin de développer. Je sais que nos terres agricoles, j'en suis un producteur agricole, je sais qu'il faut développer, il faut garder notre terre agriculture, mais on a besoin de nos milieux agricoles à développer nos milieux urbains, nos milieux villageois. Comment on le fait? Je ne sais pas, mais on va le faire. Nos producteurs agricoles, on a déjà développé les producteurs agricoles, puis il faut continuer à développer avec eux autres. Il faut s'asseoir à la table avec eux autres, dire qu'est-ce qu'on peut vous donner, qu'est-ce qu'on peut faire de bout de chemin. Ils sont d'accord, les agriculteurs, en disant on a besoin aussi du monde qui vient. Ils font vivre nos écoles, font vivre nos dépanneurs, font vivre nos caisses populaires, font vivre notre monde.
On est entièrement d'accord avec ça, mais dans le périmètre déjà établi, je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas voir notre terre comme étant limitée quelque part.
T'as-tu fait le tour des municipalités? Philippe, tu vois qu'il n'y en a plus d'espace pour bâtir. Là.
C'est très, très peu. Avec lesquels on
peut. Il n'y en a pas, mais on n'a pas le choix. C'était agricole tout le tour, malheureusement.
Merci.
Ça prend ça.
C'est terminé. Merci à vous cinq, et merci à vous quatre plutôt, et merci de votre collaboration tout au long du débat. On termine maintenant avec les déclarations de conclusion de chacun des candidats. Comme tout au long du débat, c'est un tirage au sort qui détermine l'ordre de la prise de parole. On débute avec M. Lyonnais. Vous serez le premier à parler. M. Lyonnais, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 3 octobre? Vous avez une minute.
Je dis aux électeurs, ce qu'on va faire, on va faire avec la base. On va descendre d'en bas, on va monter d'en haut. Et non de prendre d'en haut et descendre en bas. Prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut développer chez nous, qu'on peut faire. Être un gars de terrain, être un parti de terrain, c'est le Parti conservateur du Québec. J'ai dit aux gens, prenez le temps de regarder notre programme, d'aller voir qu'on peut développer chez nous, avec les gens de chez nous, puis remonter en haut des projets. Et non de faire descendre des projets d'en haut et d'en bas. Merci. Et en passant, je dis toujours ce mot-là, prendre le temps, puis ça n'a pas rapport avec les élections, mais ça a rapport avec nos gens chez nous, et je le répète souvent depuis que je fais de la politique, prenez le temps de faire un appel à quelqu'un qui est tout seul. C'est notre base aussi, là.
Merci, M. Lyonnais. M. Watsou, à votre tour, que dites-vous donc aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 3 octobre?
Bonjour. Non, mais sérieusement, nous à Québec solidaire, on est fiers de notre programme. C'est un beau projet de société. Je vous invite à aller le voir sur les internets et déchiffrer toute cette belle plateforme qui est là pour l'ensemble du peuple québécois. Personne n'est laissé de côté, puis on participe. Il y en a pour tout le monde, pour le secteur économique, secteur d'éducation, secteur de santé Le 3 octobre, je vous invite à voter pour Québec solidaire. On a fait un beau processus démocratique ce soir pour vous informer de chacun de nos plateformes. On veut vous rappeler aussi que le 4 octobre, la vie continue. Et c'est ça qu'on s'est dit au début. Ça a été un beau débat. C'est ma première fois que je participe à un débat en dehors de ma communauté. Et c'était toute une expérience. Et je vous remercie d'avoir été attentif. Mais je vous invite à voter Québec solidaire. On va changer d'air le 3 octobre, mais en même temps, c'est un parti de cœur. Et je vous invite à voter Québec solidaire.
Merci, M. Watsou. Mais c'est maintenant au tour de M. Dumas. Que dites-vous donc aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 3 octobre? Vous avez une minute.
Oui, je pense que c'est de voter pour le Parti québécois, c'est de voter pour le respect de nos concitoyens, de nos institutions. C'est quelque chose de particulier pour moi d'être dans cette campagne-ci, de voir défendre des choses qu'on croit pour acquis. Je crois qu'il faut toujours s'améliorer, il faut voir comment on peut s'améliorer. Puis au Parti québécois, on n'a pas peur de nommer. On n'est pas peur de vérifier et de montrer nos données et de dire d'où on les prend. Le plan climat du Parti québécois est celui qui a été cité comme étant le plus crédible. Puis au-delà de ça, je l'ai consulté, il est ambitieux et vraiment inspirant. L'environnement au Parti québécois est une priorité et pour moi dans le comté également. Je crois que Nicolas Bécancourt a besoin d'un député qui va parler pour eux et non pas pour être un promoteur du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup de projets en cours et j'ai vraiment la conviction profonde, d'être la voix des électeurs. Et
merci.
Merci beaucoup.
Et on termine avec M. Martel. Que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 3 octobre?
Bien, premièrement, je veux vous remercier les animateurs. Je veux remercier les collègues. C'est le quatrième débat que je fais. Sincèrement, ça a été un beau débat. Je suis très content. Moi, je suis très fier du travail que j'ai fait comme député depuis 10 années. Qu'on parle de la filière batterie, tout ce qu'on est en train de faire dans le parc industriel, l'autoroute 55, l'autoroute 30, les nouvelles écoles, 3 nouvelles écoles. Une nouvelle que j'ai promis en campagne électorale, des CPE à Saint-Célestin et à Sainte-Eulalie, un nouveau à Nicolet, un nouveau à Bécancourt. Bref, je suis très content. Moi, je pense que les gens de Nicolet-Bécancourt vont être très bons députés. Puis si j'étais à leur place, je le garderais.
Merci, M. Martel. Bien voilà, c'est ce qui conclut ce débat des candidats dans Nicolet-Bécancourt pour les élections générales du 3 octobre. Je vous invite à donner une bonne main d'applaudissements aux candidats qui ont participé à l'exercice de ce soir. Dans un premier temps, je souhaite remercier les candidats qui ont participé à cet exercice aujourd'hui. Un merci tout particulier à Marie-Ève Veillette de l'Hebdo Le Courrier Sud pour sa participation. Merci Marie-Ève. Et remerciement aussi à la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec avec qui nous avons coproduit ce débat et au Centre des arts populaires de Nicolet pour nous avoir accueillis. Merci à notre équipe de production, Éric Desmarais au son, Justin Savard à la mise en onde, Lucie Carré et Marie-Claude Tremblay à l'accueil et la logistique, Philippe Saint-Pierre à la supervision technique et au directeur général Louis-Martin McArdle. Nous suivrons à notre antenne tous les développements de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin dans tout juste une semaine ou un peu plus d'une semaine. Nous vous invitons à vous prévaloir de votre droit de vote ce dimanche et lundi prochain du vote, lors du vote par anticipation et lors de la journée du scrutin du 3 octobre. Ici Jocelyn Ouellette, merci de votre attention et à la prochaine.
Direct du Centre des arts populaires de Nicolet. C'était Élection Québec 2022, le débat. Une production de Via 95, en collaboration avec le Courrier Sud et la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. Vous pourrez réécouter ce débat sur notre site web au www.via.fm. Voici ce que vous avez manqué dans Via le matin.
Aujourd'hui, Jean-Claude est arrivé à une affaire concernant le prince Charles.